Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Avec David Douillet, Christophe Cessieux, avec Denis Charvet et Julien Beneteau, tiens, nous dit sur le WhatsApp, attendre que JC ne soit plus là pour parler de golf, franchement, c'est moche. C'est vrai que tu n'en as peut-être pas jamais autant fait que sur ta zapette.
Et pour la Garonne, j'assume. Hein.
Ouais.
J'assume. C'est de ta faute.
C'est de ma faute.
Oui.
D'accord.
Ah, donc c'est une belle façon d'assumer.
D'accord.
Ça va, une nouvelle définition d'assumer. Selon Denis Charvet.
Je ne vais pas prendre des coups. Pour les autres non plus, non.
Ouais,
non,
mais toi,
on va parler des vestiaires là.
C'est comme
tu pensais déjà que le Rwanda était au sud de l'Afrique du Sud.
Tu es originaire de Castres et tu sais même pas que la Garonne ne passe pas à Castres.
J'ai un peu.
Comment s'appelle la rivière qui passe dans Castres?
Ah, je sais pas. Tu le sais, toi?
Durank.
Il est pas de Castres, il est de Cahors.
Il a regardé sur son téléphone.
Regardez, avec quel escroc.
Mais t'entends ça, David? Christophe dénonce les tricheurs alors que.
Moi, je suis de Cahors, je
m'en ai
refouché. J'aime bien Cahors.
On est pas tous en même temps.
D'accord, c'est le Lot qui passe. Voilà.
Et l'autre qui repart de sa Ryder Cup au milieu de nulle part. Il le place
incroyable.
Tout le temps. C'est incroyable.
Cette émission est irréelle.
C'est irréel. On va arriver à. Tu sais, tu vas faire comme dans Les Inconnus. Tu vas dire la Ryder Cup à chaque réponse tout à l'heure. C'est ta mer noire dans les jeux du sport. Les GG sur le buzzer dans un instant. La Coupe du Monde de rugby féminine avec nos Bleus. Petite finale à 13h30 face à la Nouvelle-Zélande. À vivre en direct sur RMC. Une victoire est-elle importante ou anecdotique pour les Françaises? On va en parler tout à l'heure. Et puis en fin d'émission, donc, les jeux du sport. Aujourd'hui, vous pouvez remporter un magnifique cadeau, une PlayStation 5 et le jeu eSport FC 26. Appelez le 32-16, touche 4. Envoyez sport au 7-32-16 pour participer. Mais tout de suite, les GG, vous nous ouvrez la porte de votre vestiaire.
RMC, le vestiaire des GG.
Cette semaine, les GG, ce qui a attiré mon attention, c'est l'ambiance de feu qu'on nous avait vendue à la Ryder Cup de golf. C'était le moment pour la placer. Les États-Unis reçoivent l'Europe près de New York, donc cette année à Farmingdale, pour être tout à fait précis. L'atmosphère a été annoncée compliquée pour les Européens au milieu du public américain. On avait parlé de chambrage, de crachats, d'insultes, de jets de bière. On est d'accord qu'au final, c'est pas tout à fait ça.
Les insultes, il y en a. Les crachats, non. Puis, de toute façon, aux États-Unis, tu dois comporter correctement dans les enceintes sportives, sinon.
Mais parfois la Ryder Cup, c'est ça. En tout cas, des ambiances comme cela. Donc les GG, à travers vos expériences, je voudrais qu'on parle ensemble de tout ceci. Vous avez tous vécu de grandes épreuves dans des ambiances hostiles, en Coupe Davis, en rugby et en judo. Comment affronter cela, Denis? Tiens, ambiance hostile dans le rugby. Comment tu faisais?
Plutôt en France, plutôt moins à l'étranger. Alors après,
du côté de Perpignan, par exemple.
Perpignan, oui. J'ai quelques anecdotes du côté de Perpignan.
Vas-y.
C'est public show, oui. Bah, en plus, moi, j'ai joué avec Vincent, Simon, Moscato, Simon Jambert, avec le Stade français. Puis là, ça avait quand même un peu dégoupillé, si tu veux, devant.
Ah, mais donc, tu te préparais à
l'hostilité? Non, et puis. Plus sur le terrain que dans les tribunes.
Oui, mais si, non, c'était un peu.
C'était l'environnement?
C'était la fusion entre le terrain et là-bas, c'est fusionnel. Mais Vincent, il me disait, il y avait des coups qui partaient de partout. Je dis, Vincent, on va arrêter là quand même. Il se retourne vers moi, il me dit, tu veux gagner ou tu veux perdre? Et là, ça a dégénéré. Et puis après, ça a fini sous la tribune, tu vois, dans le couloir, la bagarre générale. Bon, moi, j'étais loin de la bagarre.
Hein. Ah oui, ça m'étonne pas.
Je te rassure. Mais là, c'était chaud quand même. C'était chaud.
Mais tu te préparais à ça quand t'allais dans un stade aussi, t'as parlé de Perpignan.
Non, puis c'est pas. Tu te prépares pas à ça. Et puis moi, j'ai jamais trop aimé ça. Voilà. La vérité, c'est que je trouve ça. Ben, je trouve que quand ça déborde, ça va si loin, c'est pas.
T'as jamais participé?
C'est pas du sport, voilà. Non, j'ai pas participé. Non, mais le rugby, tout ça, il y a quand même une forme de respect. Et là, on avait le respect, il y avait pas trop de respect ce jour-là, quoi.
Voilà. T'as envie de sortir les valeurs de l'ovaline?
Oui, ah, les valeurs, non, mais. Voilà. Mais, non, c'est pas un bon souvenir pour moi.
Julien. Comment affronter une ambiance hostile?
Ouais, pour revenir un peu plus sur ce que tu demandes. Nous, on a joué surtout la Coupe Davis, la grande Coupe Davis, la vraie, pas celle d'aujourd'hui, où on jouait dans des très belles ambiances. Hostile ou, j'ai pas envie de dire hostile, c'est des très belles ambiances. Moi, j'ai joué en Argentine, devant 12, 13 000 personnes. On avait rarement vu ça. On avait les chants des supporters argentins qui rentraient dans nos têtes le soir. C'était compliqué. Et en fait, ce qui est compliqué à gérer, c'est le fait que ça galvanise ton adversaire quand tu joues à l'extérieur.
Tu peux t'en nourrir aussi, toi.
Exactement. Donc nous, on se recentre sur nous, sur comment on doit gérer ça, essayer d'éteindre ce public par les performances, sans vouloir faire un mauvais, enfin un running gag, mais sur la Ryder Cup. Non, non, mais c'est vrai. C'est quelque chose dont qu'ils ont préparé énormément, le staff avec les joueurs, comment appréhender cette ambiance et justement dans la stratégie du capitaine, de savoir de mettre quel joueur à quel moment pour essayer d'éteindre le public américain. C'est une vraie stratégie pour qu'il y ait un impact sportif et qu'il y ait un impact sur le public. Et nous, sur la Coupe Davis, c'est d'essayer de justement d'éteindre un petit peu ce public hostile pour pas qu'il galvanise l'équipe adverse par ta performance. Et la finale à Belgrade en 2010, je me souviens, ça c'était...
J'y étais moi aussi.
Voilà, 17 000, 18 000 personnes, c'était une ambiance incroyable. Et il y avait Claude Onesta qui était venu nous parler avant de partir. Parce que à ce moment-là, eux, ils avaient été champions du monde en Croatie contre
Croatie, oui.
À Zagreb. Et je me souviens, Onesta, il avait dit, il va falloir que tout le bruit, toute l'ambiance, tout le décorum, etc., il va falloir que ça glisse sur vous. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui doit...
Est-ce que ça a vraiment glissé sur vous?
Si,
Parce que moi, alors, je vais te donner mon expérience de ce match-là.
Ouais.
Donc, vous gagnez le double, vous mettez 2-1 le samedi soir. Ensuite...
Djoko bat Gaël. Ouais.
En fils.
Et donc on est à deux partout.
Match, les derniers matchs, c'est.
Moi, je me souviens de Djoko haranguant la foule en serbo-croate. On n'a pas compris ce qu'il disait, mais a priori, c'était pas très aimable.
Très sympa.
À l'égard des Français.
À la fin du match, exactement.
Et Mika derrière, pris la pression dans la figure. Hein.
Évidemment.
C'est... Wow. Il jouait contre Troïki, je crois. C'est ça. Qui était à sa portée.
Évidemment que c'est. Tu arrives à 2-2, simple décisif pour gagner la Coupe Davis devant 18 000 Serbes en Serbie, c'est violent. C'est très, très violent. C'est l'avantage de jouer à domicile à ce moment-là, il est incroyable.
Mais votre sport, c'est un sport vraiment de concentration extrême.
Exactement. Ouais. Mais ce qui est, comment dire, et pour l'avoir vécu dans l'autre sens, quand tu joues en France ou quand tu joues à Roland-Garros, etc., en fait, ce qui est incroyable, c'est que quand tu joues devant un public aussi fervent, quand tu réussis un coup, quand tu breaks, le public devient ça te porte, ça te galvanise, et donc derrière, quand tu peux être un peu plus audacieux, tu peux aller chercher, et quand tu fais un coup gagnant et que t'as 15 000 personnes qui hurlent avec toi, mais ça te donne
à Gerland, lors de la finale, exactement, c'est transcendé,
un
les mecs,
boost d'énergie. Ouais. Et je finirai là-dessus. Après, David donnera son expérience. On a joué aussi contre Nadal dans les arènes à Cordoue devant 15 000 personnes. Incroyable. Les vraies arènes, la Plaza de Toros de la ville. Les gens là, pendant le point, quand Nadal prenait l'échange en cours, vous savez, avec son coup droit et qu'il hurle à la frappe, lui, il crie à la frappe avec son coup droit. Et là, il faisait un premier coup droit où il hurlait et il faisait le point en faisant 3-4 coups droits et le quatrième, en général, il était décisif. Et là, les gens, pendant le point, ils hurlaient avec Nadal au moment de la frappe. Pendant le point.
Mais la question, c'est à quel point ça avait une influence sur vous et à quel point vous étiez préparé à ça.
Nadal, on est préparé, on est des sportifs de haut niveau, on peut pas se cacher. On sait quand tu vas jouer en Serbie, tu sais que tu vas prendre la foudre. Voilà. Mais c'était incroyable. Et c'est galvanisant. Mmh.
Non, mais il y a des joueurs qui absorbent davantage la pression que d'autres, tout simplement aussi. Ça dépend du joueur, de la personnalité du joueur.
Comment affronter une ambiance hostile, c'est la question du vestiaire des grandes gueules du sport aujourd'hui. Toi, tu l'absorbais la pression, David? Hostile.
Oui. Alors il y a différents cas de figure. T'as la pression avec beaucoup de bruit, puis t'as la pression sans bruit. Ouais. C'est assez étonnant, et c'est assez paradoxal. Parce que quand tu te retrouves au Japon sur un championnat du monde et que il y a énormément de bruit quand il y a un athlète japonais qui monte sur le tapis, etc. Toi t'es face à lui et puis d'un seul coup tu commences à prendre une ascendante, tu commences à marquer un point d'avance, etc., etc. Le bruit s'amenuise un peu, puis d'un seul coup pouf, il y a plus rien. Et là, t'as un silence, tu vois, de mort. Et quand tu gagnes, T'entends 10 personnes qui est le staff de l'équipe de France qui hurle de joie, et le reste un bruit assourdissant. C'est faut
silence assourdissant.
Mais c'est la culture japonaise, ça plutôt.
Ouais, ça vient de la culture japonaise, bien sûr. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils sont très très excités, puis dès que ça commence à tourner vinaigre pour eux, d'un seul coup, pouf, il y a une espèce de mutisme. Et alors, ce bruit qui n'existe plus est aussi assourdissant pour ton adversaire, parce que lui. Il a l'effervescence du début, etc., etc. Puis d'un seul coup, non seulement quand il tourne le museau vers le tableau de marquage et qu'il visualise qu'il est mené, et qu'en plus il y a de moins en moins de bruit, je peux te dire que ça pèse sur ses propres épaules, tu vois. Et toi, ça te galvanise aussi, tu vois. C'est assez marrant comme processus qui est un petit peu différent que dans d'autres disciplines.
Je sais pas si tu es d'accord avec moi, David, c'est plus difficile pour les sports individuels que le sport collectif, il me semble.
L'ambiance, t'as des petits camarades
à côté, t'as quand même un effet collectif qui fait qu'à un moment donné tu peux te reposer sur ton partenaire. Si t'es pas bien, tu vois, si à un moment donné tu sors de ta concentration du match, parce que parfois tu peux sortir d'un match parce que tu vas louper quelque chose, tu vois. Ça arrive, et puis ça peut arriver à cause du public, parce qu'à un moment donné s'enflamme le public.
D'une insulte,
ça galvanise aussi. Mais je sais que par exemple Vincent Moscato, il s'en nourrissait beaucoup, il adorait ça, parce que bon,
parfois trop, mais
il s'en nourrissait, et puis ça le rendait peut-être plus fort, mais meilleur. Donc il aimait bien.
Ça dépend des caractères.
Ça dépend des caractères. Il aimait bien ces terroirs hostiles comme à Mayol, où on se souvient d'un match dantesque entre Toulon et Bordeaux. Où ça avait été terrible.
Toi moins.
Moi, à Mayol, mais j'ai joué à Mayol, mais c'est vrai que c'est des terres hostiles, tu peux pas te dire le contraire.
T'arrivais à moins t'exprimer dans une ambiance hostile?
Non, t'étais obligé de te préparer différemment, en fait, suivant le stade où t'allais jouer. T'allais à Mayol, et bien tu savais que bon, il fallait pas que tu penses à autre chose que ce que t'allais faire, et le préparer en amont.
Il y a des endroits qui sont connus pour ça.
Oui, bien sûr.
Quand Mayol, les joueurs traversent.
L'USAP,
c'est pareil, etc. Pour revenir sur ce que disait David sur le silence. Et la pression parfois liée au silence, ou la tension que ça importe. Au rugby, quand parfois tout d'un coup il y a un coup de pied hyper important, et là tu sens le stade parce que les gens sont tendus.
Tu sens la pression.
Incroyable. Sur toi.
C'est terrible.
Au tennis, tu peux avoir entre les points une clameur, et puis les gens savent que c'est un moment hyper important.
Ouais.
Et là tout d'un coup, avant de servir, paf, plus un bruit.
Il y a un endroit
qui est incroyable pour ça, c'est le central de Wimbledon. Quand tu joues dessus, tu arrives sur le terrain, tu as les 5 minutes d'échauffement là. Et les gens sont devant le public, ça parle, il y a une sorte de brouhaha.
Et tout d'un coup, ça s'arrête.
Premier point du match.
Silence absolu.
Mais c'est plus difficile à gérer.
Je te jure, t'es dans une cathédrale. Premier point du match, tout d'un coup, quand il y a un arbitre qui fait ready play, et là les 15 000 anglais, pouf, il y a plus rien, et là t'es là, ah ouais d'accord, bon là faut y aller. Je suis en train de Wimbledon.
Oui, et tu sais que tout le monde te regarde.
T'as pas en face.
Comment affronter une ambiance hostile, David?
Je trouve que c'est plus difficile à gérer ce que décrivait Bennett là, parce que t'as toujours un bruit de fond dans un stade, qui soit plus ou moins élevé, etc. Ouais. T'as un bruit de fond, toi. Ouais. Et quand t'as plus de bruit du tout, mais tu t'en rends compte, parce que le bruit de fond, les clameurs, etc., etc., à un moment donné, tu t'es protégé, t'as mis ta bulle, etc., tu t'es bouché les oreilles, voire même tu t'en nourris. Ça, c'est facile, c'est assez simple. Mais alors, quand il n'y a plus de bruit, paf! Là, tu te dis, wow! Tu t'entends même, toi, quand tu te déplaces. Toi, t'entends tes gestes, tes propres gestes, ce qui n'arrive pas normalement. Et là, tu peux être déstabilisé. À mon avis, le silence est plus compliqué à gérer. Que la clameur, les insultes et le reste.
Moi, j'ai vécu avec l'opposé, en fait, parce que des trois finales de champion de France au Parc des Princes, trois finales, et là tu n'as pas un silence de 90 minutes. C'est-à-dire que tu peux pas t'entendre, tu peux pas te parler à 10 mètres. Ça m'est arrivé trois fois. Et là, c'est une violence terrible. C'est-à-dire que c'est un autre contexte, tu le vis jamais les dimanches en top 14, ça tu le vis pas. Et là, tout d'un coup, tu te retrouves en finale, et le Parc des Princes est sur toi, il y a 50 000 personnes qui sont... Le brouhaha, il est terrible.
Non, mais c'est intéressant parce qu'on a dévié sur le bruit et le silence finalement, sur l'impact.
Oui, oui. Non, mais je parle de ça terrain. Parce que ouais, j'ai des souvenirs de finale, et là, il faut que tu sois dans une concentration maximale, plus que pour une demi-finale ou normal.
Alors David... après si je veux revenir sur un truc aussi un peu incroyable, c'est un stade qui se vide, parce que moi ça m'est arrivé, tu vois, j'étais en Géorgie dans un stade, une arène, hein, il y avait plus de 10 000 mecs, que des mecs avec des moustaches, des bacchantes qui retombent comme ça, et tous des bérets noirs, les Géorgiens, je vous parle de ça, j'avais 20 piges, hein. Et d'un seul coup, ils viennent juste, ils connaissent pas grand chose au judo, mais ils viennent voir le Géorgien. Et à l'époque, je vous parle d'une autre époque, celle de Christophe Cessieux, on dit c'était à l'époque de l'URSS.
J'avais aussi un béret et des grosses moustaches.
Voilà, et ça te va pas mal d'ailleurs. Et alors, les Géorgiens ne pouvaient pas piffer les Russes, mais ils étaient tous sous le giron de l'URSS. Ça n'a pas trop changé d'ailleurs. Et donc, quand il y avait un Géorgien, et les Géorgiens dans ma catégorie à cette époque-là étaient très forts, qui battaient un Russe, ça devenait, c'était l'exploit de la compétition. Et donc, ils étaient là. Moi, je rencontrais un Géorgien en premier tour, le plus fort.
J'avais quoi, 20 ans,
ouais. Ouais, j'étais à peine pubère, tu vois, j'étais tout frêle, etc. Et là, miracle, je bats le Géorgien. Le stade s'est vidé. Il n'y avait plus personne, ils sont partis. Après, moi, je rencontrais le Russe. J'ai pris une ratatouille face au Russe, d'ailleurs. Mais le stade s'est vidé, il n'y avait plus personne. Et là, je peux te dire que ça fait bizarre, quoi, parce que tu dis mais qu'est-ce qui se passe, quoi, qu'est-ce que j'ai fait, voire même j'avais une espèce de culpabilité d'avoir battu le Géorgien, d'avoir rendu 10 000 mecs tristes, et en plus derrière j'avais même pas pu continuer, j'avais même pas pu sauver l'honneur puisque je m'étais fait battre face aux Russes. Donc tu te dis waouh, qu'est-ce qui se passe, que c'est assez compliqué. Et j'avoue que quand j'ai combattu face aux Russes dans un stade vide, ben ça m'a perturbé un peu parce que je pensais à ça. Voilà. Bah oui. Ça m'a apporté une autre pression, ouais, vraiment.
C'est-à-dire qu'en rentrant sur le tatami, t'as pris conscience de l'endroit où tu étais, quoi.
Et puis de l'importance du premier combat, qui était important parce que c'était le tenant du titre, en plus, ce Géorgien. Et le fait d'y plus y avoir personne, etc. Je me suis dit, waouh, il faut que je batte sur lui. Ça m'a mis une pression supplémentaire que j'ai. Bon, j'étais jeune, j'ai pas su formaliser par une victoire, mais enfin voilà, j'ai perdu, quoi.
Vous avez jamais joué avec le public adverse, d'ailleurs, les gars? Vous avez jamais essayé de dire chut? Parce que ça, c'est le truc à double tranchant aussi, ouais, avec un public hostile.
Moi, c'est pas en Coupe Davis.
Djokovic le fait beaucoup, par exemple, face à un public hostile.
Ouais, mais
faut être capable de le faire.
Il faut être capable de le faire, mais plutôt sur des tournois où de temps en temps, par exemple, quand tu joues à Miami et que tu joues un Sud-Américain. Il y a quand même beaucoup, que tu joues un Brésilien ou un Colombien ou un Argentin, il y a beaucoup de public là-bas. Et donc, quand tu joues sur un petit court, là, l'ambiance, elle est chaude.
Et je crois que le pire en matière d'ambiance en Coupe Davis, ça avait été un match entre la France et le Paraguay.
Ah oui, dans les années 85, 86. Là, c'était très dangereux. Ils sont sortis sous escorte, c'était très dangereux. Ils ont perdu. Victor Pecci, c'était le joueur paraguayen. Ils se sont fait jeter des pièces, des choses comme ça sur dans la salle.
On peut dire que c'était hostile.
Là, c'était en plus, c'était très, très dangereux.
Mais on va sur les petits cours, là. Tu disais les petits cours dans la
Là, effectivement, de temps en temps. Tu joues pour toi déjà. C'est un tournoi individuel, tu joues pour toi. Donc, tu peux être un petit peu agacé. Et là, tu peux, avec la proximité, calmer un peu le public en parlant avec eux, en faisant des signes avec eux, etc.
Tu sais que t'es moins télévisé aussi?
Non, mais ça, c'est... Moi, oui, peut-être, mais côté télévisuel, non. C'est juste que côté proximité et le fait que c'est individuel et que tu joues pas en équipe et que tu joues pas pour la France, où là... Quand tu fais ça, si t'es au milieu de la salle en Serbie, là, devant 18 000, que tu fais une volée à mortier fantastique, et que là, t'es au milieu du cours, et que tu les regardes, et que tu fais comme ça, ou que tu fais comme ça, je peux te dire que derrière, le premier point que tu perds derrière, déjà pour servir, tu peux pas servir, les mecs vont hurler, et derrière, t'as intérêt à assurer. Et d'ailleurs, les capitaines, que ce soit Guy ou les autres capitaines que j'ai eus,
surtout pas jouer de la provoque.
Évidemment.
Ouais. Ah oui.
Évidemment, c'est pas provoqué. Les publics hostiles, les publics où tu sais dans les pays dans lesquels tu vas où ça peut être hostile, ne jamais les provoquer.
Mais moi je pense que un joueur comme McEnroe s'en nourrissait
bien sûr.
C'était un carburant de dingue, tu vois, c'est les souvenirs qu'il nous a laissés là-dessus avec ses prises de gueule, sa mauvaise foi, etc., etc. C'était un carburant de fou. Et moi, j'avoue très humblement, hein, évidemment, j'étais pas du tout comme lui, mais que quand ça gueulait, quand c'était contre moi, j'adorais ça.
Ah ouais, j'adorais ça. Mais quand t'étais sur tatami, tu l'entendais?
Ah oui, bien sûr.
Parfois, certains d'entre vous vous dites, oh non, quand on est sur le terrain, on entend rien.
Non, mais tu l'entends pas quand t'es en action, mais avant de monter, tu l'entends. Tu sens que ça monte, ça gronde, etc., etc. Et tu te dis, ouais, vous allez voir mes cocos, là. Dans deux minutes, vous allez tous la fermer, là, tu vois. C'est ça qui te, c'est génial. C'est un vrai moteur.
C'est exactement ce que se dit Christophe Cessieux avant les jeux du sport tout à l'heure, après tout ce que vous avez mis dans la tête. On va voir comment il va réagir face à cette ambiance hostile. On ferme la porte du vestiaire, les amis. C'était très intéressant de vous écouter sur vos expériences d'ambiance hostile dans quelques instants. Tiens, les GG sur le buzzer, un dernier débat sur le rugby féminin. Les Françaises affrontent les Néo-Zélandaises pour la troisième place. C'est important ou anecdotique? On en parle dans quelques instants. On vous attend au 32-16. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirineau.
Avec Christophe Cessieux, David Douillet, Julien Veneto, Denis Charvet. C'est déjà bientôt la fin de l'émission. On voit pas le temps passer. Les jeux du sport à venir. Quel GG connaît le mieux le sport? Là, vous avez tous beaucoup parlé. Avant les jeux, il va falloir être à la hauteur, les amis. Tiens, d'ailleurs, je vous rappelle qu'aujourd'hui, il y a un événement dans les grandes gueules du sport. On vous fait gagner beaucoup de cadeaux dans les jeux tout à l'heure. Et puis, remportez aussi vos places pour le match de Ligue des Champions OM Ajax. Ce mardi à 21h au Vélodrome, pour remporter deux places pour OM Ajax. Envoyez foot par SMS au 7 32 16. Foot au 7 32 16. Mais d'abord, une dernière pour nos bleus du rugby à Twickenham.
RMC, les GG sur le buzzer.
Faut enchaîner, faut mettre du rythme. Allez, Nike, c'est vraiment arriver à rester calme et à trouver peut-être sur l'extérieur la tire à tourner pour les 7 tricolores. Oh, c'est terrible, l'essai casquette de l'Angleterre. Ellie Kildon pour le doublé. Elle vient sans doute tuer les espoirs français. La clameur dans le Ashton Gate de Bristol, puisque les Anglaises sont en finale de leur Coupe du Monde.
Après de passer tout proche de renverser les Anglaises en demi-finale de la Coupe du Monde de rugby féminine le week-end dernier, les Bleus ont un dernier match à jouer aujourd'hui à 13h30. Les amis, ça suit en direct sur RMC. Les Nécorsons et Pierre Thévenet sont à Twickenham. Petite finale face à la Nouvelle-Zélande, les Black Ferns, faut pas dire les All Blacks, hein, pour les filles, les Fougères Noires. Ce sera dans le temple du rugby à Twickenham. Les Françaises vont essayer, face au double tenant du titre, de terminer troisième du tournoi pour la huitième fois, en 10 participations. La question que je vous pose, les GG. Une victoire est-elle importante ou anecdotique pour les Bleus? Importante ou anecdotique? David Douillet.
Importante.
Christophe Cessieux.
Importante.
Julien Beneteau.
Complètement anecdotique.
Et Denis Charvet.
Totalement anecdotique.
32-16 et WhatsApp 06-12-424-424. On accueille Pierre Thévenet qui va nous commenter le match avec les Nike Corson depuis Twickenham où tu es déjà. Salut Pierre.
Salut à toutes et à tous, bien sûr. Déjà à Twickenham qui est tout vide, mais qui commence à se préparer. On voit les armées de stewards dans les tribunes qui font le ménage avant l'arrivée des spectateurs.
Le mec est depuis le temple du rugby, tranquille comme ça, tout seul.
De bon matin.
Avant un match, l'air de rien, elle est pas belle la vie. Qu'est-ce qu'on peut dire de la motivation de nos bleus avant cette finale, Pierre? Petite finale.
Elle est grande, non? On les avait quittés vraiment, vraiment déçus la semaine dernière. On les a retrouvés remobilisés cette semaine. Il y a déjà l'idée de se payer, de ramener quelque chose de cette compétition. Elles ont toute envie d'aller chercher le bronze pour récompenser aussi le boulot effectué sur les trois dernières années. Dans l'impact médiatique, populaire aussi, on sent qu'elles ont envie de revenir avec cette médaille de bronze pour prolonger un petit peu la fête. Ça acterait aussi une forme de progression puisque les Black Ferns sont quand même double championnes du monde en titre et avaient battu nos Bleus en demi-finale de la dernière Coupe du Monde en 2022. Donc une victoire cet après-midi permettrait en plus aux Bleus de leur piquer la troisième place mondiale. Ce qui motive aussi nos Françaises, c'est le moment à vivre, tu as parlé, c'est à Twickenham. Ce sera plein puisque les billets permettaient d'accéder à la petite finale et à la finale, donc ça va peut-être se remplir pendant le match. Mais on attend en tout cas un record d'affluence pour la finale qui était de 66 000 aux derniers Jeux Olympiques, record d'affluence pour du rugby féminin qui va être largement battu. tout on parlait du fait d'être privilégié de jouer cette petite finale. Et puis aussi la volonté d'offrir un bel au revoir à leur capitaine Marine Ménager, la capitaine du 15 de France, 63 sélections, 100 points en bleu, qui prendra sa retraite à la fin du match.
Donnée importante, Pierre, tu nous l'as soufflé juste avant ce débat. Les Françaises préparent quelque chose face au AK, ce qui témoigne de l'importance du match peut-être.
Oui, elle l'avait déjà fait. C'est pas une volonté de défier le AK du tout. Hein. Elles vont le respecter, mais ensuite elles vont se remettre en cercle ensemble et chanter entre elles le dernier couplet de la Marseillaise. C'est ce qu'elles font. Elles l'ont déjà fait plusieurs fois contre les All Blacks et elles l'ont dit cette semaine en conférence de presse. Ça leur permet de se remettre dans leur bulle et de se reconcentrer avant le début du match.
Parce qu'il prouve peut-être l'importance du match, Christophe.
Voilà pourquoi c'est pas anecdotique. Parce que quand tu affrontes une équipe de rugby néo-zélandaise, que ce soit pour un test match et qui plus est en compétition, bah c'est jamais un match comme un autre. Rappelez-vous de tout ce qu'on fait à chaque fois que l'équipe de France masculine affronte les Blacks, hein, même au mois de novembre, même au mois de juillet, ça prend une importance beaucoup plus considérable que quand tu affrontes n'importe quelle autre équipe. Donc là, évidemment, c'est
jamais anecdotique d'affronter les Blacks.
Il n'y aura pas de Coupe du Monde au bout de ce match en cas de victoire, mais affronter les Blacks en matière de rugby, c'est pas anecdotique. Et puis effectivement, si tu veux rester sur une bonne dynamique après avoir perdu face à l'Angleterre la semaine dernière, tu te dois de faire au moins aussi bien qu'il y a 4 ans. Autrement, tu vas quitter l'Angleterre avec le sentiment d'être moins bon
qu'il va régresser.
Une place de quand tu termines 4e.
Mais il y a 4 équipes.
Il y a 4 équipes
en 2003 pour la petite finale chez les hommes.
Julien, troisième place à Championnat du Monde, ça sert à rien, tu rigoles quoi?
Sur ces championnats, sur les Championnats du Monde, les Euros et compagnie, la petite finale ne sert à rien.
Rien. Je déteste ces troisième places. Pour moi, c'est pas dans la culture. Dans nos Coupes du Monde, c'est pas dans notre culture.
C'est vrai qu'on en a gagné des tonnes des Coupes du Monde.
Non, mais quatrième, on s'en fout. La vérité, c'est
pas dans le
jeu. Il n'y a aucun enjeu. Pour moi, la Coupe du Monde, ça s'arrête quand tu perds en demi-finale. C'est fini, tu rentres à la maison. Là, on t'impose un match. On t'impose un match. Il n'y a pas de podium, David. Au JO, il y a un podium. Dans les championnats du monde, il y a un podium. Là,
mais
y a
tu
pas
fais
de
partie des trois meilleures nations, je suis désolé. Mais t'as un statut.
C'est toi qui es la Bible de notre sport. En 86, la Coupe du Monde de foot. France RFA, la demi, on la paume. Le match
par 82.
Soit précis. 86.
Mais tous les matchs en
82 et 86.
82-86. Si tu me reproches,
moi je suis pas d'accord avec vous. C'est hyper important. Ça se classe une nation. Il y a un classement des nations.
Je me rappelle, moi, d'une Coupe du Monde.
On bat le Brésil, on perd.
Plus qu'à l'année.
Mais la petite finale.
Plus qu'à l'année. Mais on bat l'Angleterre en petite finale.
C'est en 95 à la Coupe du Monde. Mais c'est anecdotique.
On
s'en fout.
On n'arrêtait pas de perdre.
C'est pas parce que les gens s'en fichent que ça doit être anecdotique. C'est incroyable.
C'est pas un titre.
Pourquoi c'est pas anecdotique?
Mais je sais que c'est pas un titre, mais c'est pas parce que c'est pas médiatisé, que le grand public s'en fiche, etc., que sportivement, c'est pas quelque chose de très important. Je suis désolé. Parce que si tu fais quatrième. C'est-à-dire que tu es déclassé. La France, elle a un rang. Aujourd'hui, elle vaut le troisième rang mondial. On va rejouer ça. On va voir. Et puis, pour les générations et pour les gamins qui sont dans les clubs et les gamines qui sont dans les clubs aujourd'hui, quand elles regardent ça, elles disent ils ont perdu le match en petite finale. Elles sont quatrième. Elles ont perdu la demi-finale, mais elles ont perdu. Elles sont pas montées. Elles ont pas la troisième place. Donc elles ont régressé. C'est très important. Vous rigolez.
Je vais donner une donnée que vous n'avez pas exprimé également, c'est que le match aujourd'hui est sur TF1.
Bien sûr, c'est ce que j'ai dit.
Donc il va être absolument regardé un match France All Black. Pour le coup, il n'y a pas plus grand public que ça.
Denis, tu fais un parallèle avec les garçons du rugby qui, je pense, n'a pas lieu d'être pour cette Coupe du Monde. Le 15 du France féminin n'a pas très souvent l'opportunité d'être sur TF1 contre les All Black, où il y a beaucoup de monde qui vont les regarder. On a parlé beaucoup du développement du sport, du fait qu'il fallait qu'il y ait le plus en en plus de filles qui se mettent au rugby.
C'est pas la question. Ce
match-là, c'est une non, mais c'est une vitrine supplémentaire. Et non, mais c'est une motivation aussi pour les joueuses. Et le match est important aussi pour ça, pour montrer une belle image encore une dernière fois sur TF1 en prime time avant de peut-être, et on l'espère pas, retomber dans un anonymat assez relatif. Donc voilà, c'est important de ce match pour elles aussi pour ça, de faire bonne figure et de bien terminer leur compète.
Le fameux prime time de
13h30. Et aussi de regagner après une demi-finale perdue. C'est là aussi, c'est très important.
C'est pas neutre, vous avez raison, pour l'exposition et pour l'évolution et le développement. Je suis d'accord. Après, pour moi, le résultat, c'est anecdotique. Voilà.
Là, Denis, il est en train de me lâcher.
Non, je dis le résultat. Non, le résultat après l'exposition.
Vous avez oublié la dureté de la compétition, les gars.
Qui connaît l'importance que revêt ce maillot noir, voir une équipe de France jouer contre une équipe de Black. Ça n'a plus aucun intérêt. Va jouer au foot, Denis. Tiens, arrête le rugby. Va jouer au foot.
Les Blacks, je les joue.
Parce que le rugby, c'est plus bon.
Je les joue en finale, moi, les Blacks. Excuse-moi.
Ouais, mais bon, j'ai pris une branlée.
Ça s'est bien passé, ouais.
Pierre, on se retrouve tout à l'heure dans le temple du rugby. Ce sera pas anecdotique, déjà parce que ce sera sur RMC et qu'on va écouter ça avec grand intérêt. Et je suis sûr qu'avec Léna Corson, elle sera à bloc tout à l'heure.
Elle sera fibre.
Elle a le moral quand même, Léna, après les fêtes.
Mais oui, ça a été compliqué le week-end dernier, mais c'est bon, elle s'est remobilisée. Bon.
Et voilà, parce que c'est important.
Comme les joueuses.
Je vous regarderai de jambes bois.
Attendez, parce que Bennett, je pense qu'il va dire un truc, il va tirer une balle sur le chat.
Non, pas du tout, c'est bon. Là, maintenant, je suis dans les jeux du sport, j'aimerais qu'il y ait un règlement. De 30 secondes pour lancer le jeu en bonne et due forme, c'est tout.
Voilà. C'est incroyable. On va dire, par exemple, David n'a pas le droit d'avoir son ordi ou ça.
Si, il a le droit, mais dans ces cas-là, on ne fait pas une question à élimination.
Est-ce que tu peux nous mettre. Il faudrait qu'ils soient en visio avec nous. Quoi.
On va en parler dans quelques instants, les amis, ce que je vous propose, parce que les jeux du sport arrivent et on vous attend au 32-16 pour participer avec vos GG. Il y a une magnifique PlayStation 5
là, il y a l'enjeu.
À gagner avec FC26
de la Coupe de France. Là, il y a un vrai enjeu.
Allez, à tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirinot.
Ils sont dans les starting blocks. Julien Benneteau, c'est sa Ryder Cup aujourd'hui. C'est quoi l'événement du week-end?
Je préfère perdre au jeu du sport et que l'Europe vienne à la Ryder Cup.
Ah non mais là, ok.
Ah oui, vous vous rendez pas compte pas à quel point ça me donne des frissons cette compétition.
Si j'étais auditeur, donc c'est anecdotique finalement.
Mais vraiment, important. Non. J'espère perdre avec la France, battre les Black Ferns pour ce fameux magnifique match de la soirée.
Ah ouais, c'est plus qu'il dit. C'est n'importe quoi. David Douillet, Denis Charvet, Christophe Cessieux, tout de suite on joue.
RMC, les jeux du sport.
Je vous rappelle le principe, puisque c'est la première de Christophe. C'est du 2 contre 2 et vous allez défendre un auditeur. Nous avons réparti les équipes avec Maxime Abolin, notre producteur. Voici les équipes. David Douillet avec Julien Benneteau, Christophe Cessieux.
Les Bressans.
Avec
les Bressans.
Denis Charvet. Oh, les Bressans. Le truc.
Les Bressans contre les Grisonnants.
Oui. On est ensemble.
Les Bressans contre les Grisonnants.
Les Grissons contre les Grisonnants.
On a un de Castres.
On a que deux. Denis énervé de fou. Nos auditeurs aujourd'hui, Quentin et Fred. Salut les amis.
Salut.
Bonjour.
Salut. Quentin, c'est toi qui as appelé en premier, donc tu peux choisir ton équipe. Cessieux Charvet ou Benneteau Douillet?
Benneteau Douillet.
Quentin avec l'équipe Benneteau Douillet, les Bressans. Merci, et donc Quentin. Fred avec les Grisonnants. Je rappelle, Quentin et Fred, qu'il y a une PS5 avec FC26 à gagner. Écoutez-moi, les Bressans et les Grisonnants. Question à une seule réponse.
Par équipe.
Question à une seule réponse.
Pas par équipe.
Voilà, exactement. C'est-à-dire que, Bennett, si jamais tu te plantes, David peut encore répondre. Le plus proche l'emporte. Le plus proche l'emporte. Dans toutes les disciplines du cyclisme, combien de maillots arc-en-ciel a gagné Pauline Ferrand-Prévot?
14.
12. Bennett? David?
13.
6.
C'est 15, donc c'est Christophe qui est le plus proche.
Bravo Christophe, heureusement que c'est toi.
Question à une seule réponse, rapidité. Quelle est l'affiche de la finale de la Coupe du Monde féminine de rugby?
Canada.
Angleterre-Canada.
Je pars avant. Canada-Angleterre. Alors là, je m'en vais, je débranche. Je fais comme Dimeco qui a dit.
Julien Benneteau. Non, mais c'est un scandale.
Ah oui.
Ah, le je pars avant, n'empêche, cet argument était complètement moisi.
Il a pas donné de deuxième.
Question auditeur, c'est pour vous, Quentin et Fred. Donc, ouais, vous donnez votre réponse et ensuite votre prénom. Comme ça, on détermine qui a donné la réponse. Quel joueur emblématique du Barça, enfin, qui a joué au Barça, a pris sa retraite cette semaine?
Cette semaine.
Un milieu de terrain.
L'époque Messi.
Allez, Quentin.
Qui a dit ça, Fred? C'est Fred?
Ouais,
c'est ça. Bravo, Fred. Un point pour l'équipe des Grisonnants. C'est Cieux Charvet, demain. Question à plusieurs réponses, les amis. Vous êtes prêts?
Comment ça? Ah oui.
Plusieurs réponses possibles. Antoine Griezmann n'a pas marqué depuis un petit moment en Liga. Depuis combien de matchs n'a-t-il pas marqué en Liga?
46, 11, 42.
Non,
allez, 17.
10,
non,
25.
Non,
15.
Non, 14. Allez-y.
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.
32, Denis. Et voilà, mais Denis, là. Denis a l'expérience du Kikadi.
C'est impossible à savoir.
Bah, il faut juste proposer les trucs, David, t'as rien proposé.
N'importe quoi. Bah oui, mais je suis en décalage. J'ai deux secondes de décalage.
Le mec, il est pas au Vietnam non plus. Les Bressans,
il reste 6 minutes, on a le temps.
3-1 pour l'équipe Cessieux Charvet. Question à une seule réponse. Je rappelle, celui qui trouve la réponse le plus rapidement gagne. Marc Marquez peut être sacré champion du monde pour la combienième fois en MotoGP?
7ème.
7ème. Benetto.
J'ai dit tout à l'heure.
C'est bon, c'est bon, David, c'est pour votre équipe, t'inquiète.
Ah bon, ça va.
3-2. Question, les amis, à une seule réponse. Les GG. Quel est le seul cycliste à avoir remporté 3 maillots arc-en-ciel de suite?
Oscar Fréret.
C'est faux, dehors.
Merde.
Ah non. Non mais non, trop tard, Christophe. Allez les amis, vite.
Et on l'a dit hier dans la Moscato Show, de Kikadi.
4,
3,
2, Van Der Poel.
Non, c'est pas bon, il reste Julien et Denis. Donnez-moi un nom. Allez.
J'ai oublié là, c'est pas...
Denis, regarde-moi.
Allez, trop tard. Peter Sagan, 2015.
Ah oui,
2015,
bah oui.
Frère, il a pas fait, Christophe. Trois maillots arc-en-ciel de suite. Non mais il va vérifier, mais tu vas perdre du temps, c'est très bien, tu vas être déconcentré. Question pour vous les auditeurs.
Quentin
et Fred, vous donnez une réponse. Et après votre prénom. Combien de joueurs actuels du PSG ont terminé dans le top 10 du Ballon d'Or? Une réponse.
9, Fred.
Qui? Fred, 9. Quentin, t'as dit quoi?
7.
Quentin, 7. Quentin, c'est toi qui est le plus proche. C'est 4 dans le top 10. Parfait, du Ballon 3, d'Or. 3-3. Alors là, c'est chaud, les gars. C'est parti pour la question à élimination.
Ah ouais.
Chacun répond à tour de rôle. Une erreur et vous êtes éliminé. Pas votre équipe, mais vous. Donnez-moi, les amis, le top 30 du Ballon d'Or. Denis, tu commences. Pas dans l'ordre, hein. Tu me donnes des noms de joueurs.
Dembélé,
c'est bon. Bennett.
Yamal,
c'est bon. David. Les joueurs dans le top 30 du Ballon d'Or cette année. Les 30 meilleurs joueurs du monde.
Fini.
Hakimi. Allez, ça va passer. Attention, maintenant on va passer à Christophe.
Christophe, c'est trop dur pour moi ça.
Christophe.
Doué.
Désiré Doué.
Vitinha.
Oui, c'est bon. Vitinha, Denis. Bennett.
Donnarumma.
C'est bon. David. Allez, 5 secondes pour répondre maintenant.
Mbappé.
Non. 4.
Merde.
Oui.
Mbappé,
c'est bon. Oui. Christophe.
J'allais dire Mbappé, donc ça y est, je suis perdu.
Rafinha, c'est bon, le Barcelonais.
Putain, c'est celui que je voulais dire.
5, 4.
Courtois.
3. Courtois? Thibaut Courtois? Est-ce qu'il y est, Thibaut Courtois? Il n'y est pas, dehors, Denis.
Ah oh, non, Denis!
Je voulais Rafinha, tu me prends Rafinha.
Bennett. Allez,
Salah.
Mohamed Salah, bien sûr. David.
Bon, j'ai peur qu'on l'ait déjà dit, mais est-ce qu'on a dit Doué? On l'a déjà dit.
Oui, on l'a dit.
Non, ah merde.
David. Mais il reste encore donc deux équipes différentes, Bennett et Christophe. Christophe.
De Bruyne.
De Bruyne?
Non, il n'y est pas.
Kevin De Bruyne? Oh là là, mais il n'y est tellement pas.
Non, il n'y est pas.
Moi, je ne sais pas.
Le point pour l'équipe, les deux points pour l'équipe Benetto Douillé pour cette question à élimination.
Ah, c'est deux points?
Moi, je me vais dire McTominay.
On a gagné là?
Pour gagner.
C'est bon, c'est gagné pour Bennett. Ça fait donc 5-3. Question pour les auditeurs. Quentin et Fred, réponse.
Break,
et vous donnez votre prénom. Quel est le prochain adversaire du PSG en Ligue des Champions?
Prochain. Barcelone, Fred.
Bien joué, Fred. Barcelone. 5-4, attention.
Quentin, tu veux rester avec la PS2, Quentin?
Attention, attention, 5-4. Question à une seule réponse, les GG. La Ryder Cup se déroule ce week-end. C'est la combientième édition? Allez, tentez les trucs.
Et c'est une seule réponse?
Oui, une seule réponse.
C'est la 42e.
43e. 38e.
David?
39, 40, 41.
Non, non.
Éliminé, lui.
43.
T'as dit 43, Denis?
Non, mais il y a
Bennett, 43. 43, et donc, mais c'est Denis qui l'a dit en premier. 5-5. Allez, les amis. Question pour vous départager. Question pour vous départager. Balle de match. Le plus rapide l'emporte. En 2008, quel sportif français a failli devenir pilote de Formule 1 après sa carrière en
rallye?
Sébastien Loeb.
Christophe Cessieux.
Oh, mais non, mais non.
La victoire de l'équipe des Grisonnants. Cessieux Charvet. Fred, c'est toi qui remportes la PS5 avec le jeu FC 26. Félicitations.
Jouez au jeu du sport sur RMC avec Micromania Zing, spécialiste du jeu vidéo et de la pop culture. Rendez-vous sur micromania.fr.
David, dégoûté David, en plus sur de la Formule 1.
Bah ouais, parce que...
T'es nul, David.
Ouais, exactement, je l'avais, je pense l'avoir dit avant, mais bon, ça...
Ouais,
c'est
sûr.
Non, mais oui, bah, avec le téléphone, c'est toujours pareil, il y a un millième de seconde de décalage.
Oui, voilà. Bien sûr.
Alors que Bennett... Mais là, tu vois, ben voilà, mais tu râles. Tu râles avant, le karma.
Bennett, non, mais c'est Quentin, il a pas voulu gagner sa PS5, tant pis pour lui.
Est-ce qu'on croit au karma, la grande gueule du sport?
Oui.
Les amis, merci beaucoup. Christophe, ben voilà, première participation au jeu, première victoire. Il revient première en forme, victoire, hein, Christophe.
Ouais, il s'est reposé, il est fragant.
Fringant,
ça. Bah, il a du jus.
Il avait du jus. Attention, à demain. On se retrouve demain, Christophe, évidemment, avec toute la team. On aura Pascal Duprat, Cédric Emmons également, qui sera là pour ces grandes gueules du sport. Merci les GG. Tout de suite, c'est les paris RMC. Tout de suite. Bah, tiens, Denis va rester avec moi. Il est tellement en forme. On va voir s'il veut nous parier des matchs nuls dans tous les sens. À tout de suite.
Tellement content.
Jusqu'à 13h,
les paris RMC.